Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Donc là, on vient d'arriver à Plogonec, au Champ des Possibles, où a lieu l'exposition Open Field 3, une grande longère très bien rénovée et qui donne sur les champs de Plogonec. Donc on va rentrer pour rencontrer les œuvres.
Pour cette promenade, donc cette visite ensemble, ça serait bien que chacun des artistes présente assez brièvement son travail.
Allez-y.
Eh bien, en avant.
On commence.
En deux mots, chez La Lacluse, Sylvain, Jean-Yves et moi-même choisissons qui on va inviter pour un projet d'expo. Ce qui nous permet d'inviter des travaux des artistes assez différents les uns des autres. On tient à avoir beaucoup de pluralisme et représenter un peu tout ce qui nous semble digne d'intérêt dans des tendances extrêmement différentes. Et on se retrouve à associer parfois des artistes qui ne se seraient peut-être pas retrouvés associés dans un autre contexte. On trouve beaucoup d'intérêt à cette manière de travailler. On est presque tout le temps d'accord sur pratiquement tout. Voilà ce que je peux dire. Donc le rassemblement qui est là est le produit un peu de tous les membres du groupe. Et puis
l'expérience du lieu ici aussi, Paul.
Et l'expérience du lieu,
et exactement. Aussi du nombre d'artistes qu'on trouve finalement idéal d'inviter ici. Et cette fois-ci, ils sont 5 comme la dernière fois, je crois.
C'est la bonne jauge pour nous. Maintenant, je vous propose d'écouter Maëlle, qui va nous... Voilà, que chaque artiste introduise un petit peu brièvement sur son travail. Et puis, comme ça, après, vous avez le temps de... discuter, approfondir.
Les pièces précises que tu as choisi de mettre ici, pourquoi? Donc les pièces que tu as mises ici, c'est
Les loups dorés ainsi que les aquarelles derrière vous.
Maëlle Nosaïque.
J'ai plusieurs pratiques artistiques, donc majoritairement de la peinture à l'huile, beaucoup d'aquarelles, un peu de sculpture et également de la gravure. Et je trouvais que les loups étaient appropriés pour Open Field 3. En fait, c'est un projet que j'ai réalisé à la base pour l'extérieur. Et elles ont un peu subi des intempéries, elles ont pris une petite patine, certains endroits un petit peu bleuâtres, donc c'est quelque chose que j'ai décidé de garder quand je les ai réparées. Et donc c'est des sculptures qui sont réalisées avec une base de polystyrène sculpté, et ensuite avec du papier mâché et cellulose de bois, c'est une sorte de poudre qu'on mélange avec de l'eau et qui se transforme en une sorte de pâte qui est assez proche de la glaise à travailler. Et ensuite, les sculptures sont recouvertes de peinture, feuilles d'or et également d'une résine bio qui n'a pas beaucoup de tenue finalement pour l'extérieur. Mais bon, voilà, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu plus écologique. Et finalement, si je voulais les remettre dehors, il faudrait vraiment que je mette de la résine de bateau, je pense. Mais bon, pour l'instant, elles sont bien à l'intérieur. Le loup, en fait, représente un animal un peu totémique dans mon travail. Puis je trouve que c'est un animal qui est vraiment d'actualité parce qu'on est entre l'animalité, la peur, le conte, l'acceptation du retour de la sauvagerie. Enfin voilà, ça pose pas mal de questions. Et en fait, à Chastrey, ils ont une légende qui s'appelle la légende du loup de Courlande. Je peux vous la raconter en deux secondes. Hein. C'est l'histoire d'une petite fille qui allait donc garder ses brebis. Et en fait, il y a un énorme loup d'or qui est venu, qui a surgi de la forêt. Et en fait, il a essayé de la bouffer. Et elle a réussi au dernier moment à lui mettre une sorte de fuseau dans la bouche. Et en fait, ils ont passé un pacte. Elle lui a dit je te libère de ce fuseau dans la bouche, dans la gueule, si tu ne reviens plus parmi nous, en fait. Donc, c'est vraiment l'accord entre l'homme et l'animal de la guerre des territoires, voilà, chacun reste sur son espace et dans ce cas-là, on ne se fera pas de mal mutuellement. Donc je trouvais que c'était une assez belle histoire et c'est pour ça que j'ai décidé de proposer ce projet qui vient donc de la légende du loup de Courlande en Auvergne. Voilà, donc ça c'est pour les loups. Pour les aquarelles, c'est un mélange un petit peu de pas mal de séries. Je travaille souvent les aquarelles avant les peintures, donc là il y a quelques extraits de séries, notamment celle sur le carnaval. Voilà, donc je travaille beaucoup avec des masques originaire de carnaval européen, de la Commedia dell'arte, certaines images un peu moyenâgeuses. Voilà, il y a des mélanges de religions également. On voit apparaître la tête du Christ. On voit aussi des images un peu bouffonnes comme ça. Voilà, donc ça, c'est des inspirations que j'ai depuis pas mal d'années, que je retranscris en mélangeant en peinture et en aquarelle.
Donc, Angie n'est pas là.
Angie Peignard-Kim.
Ouais, Angie n'est pas là, mais elle a trois pièces ici, donc les deux arbres là, et puis le caisson lumineux, fait voir une forme qui peut faire penser à plusieurs règnes, le règne végétal, peut-être même minéral, et puis aussi animal, et pourquoi pas la présence humaine, ce qui fait que je pense qu'on relie beaucoup le travail et les questionnements dont a parlé Maëlle, ici avec la présence de l'animal et la relation avec l'homme. Et c'est aussi le questionnement, d'une certaine manière, d'Angie, avec la pièce qui est là-bas aussi, qui est donc un grand travail de dessin, parce que c'est sa spécialité à Angie, et un travail aussi donc qui fait voir un fœtus de kangourou, mais à une échelle évidemment totalement différente. Hein. Donc il y a un hyper-réalisme dans le dessin. Et aussi beaucoup de questionnements chez Angie sur la relation que l'on entretient avec l'animal. Et puis aussi le fantastique, c'est aussi encore un autre lien entre vous. Voilà pour Angie.
Voilà, donc Bruce Gould qui, on l'espère, sera peut-être avec nous demain soir.
Bruce Gould.
Donc c'est une peinture qui est basée sur la couleur. Il a fait beaucoup de céramique pendant assez longtemps. Et puis bah, vous retrouvez un peu les éléments de la peinture à la fois moderne, moderniste, et puis des années 70. La touche, la matérialité et la couleur et un développement qui n'est pas forcément quelque chose de prévu, mais qui se développe comme ça, par comme on poserait des pavés. Voilà, et puis des petits échantillons sur le mur là-bas. Je vais peut-être passer la parole à Vincent, si tu veux nous...
Ouais, voilà, donc je suis photographe basé à Brest.
Vincent Gouriou.
Je suis artiste auteur, mais je travaille aussi, je collabore aussi pour la presse, notamment pour Libération, sur des sujets de reportage ou de portraits. Et donc ce travail que j'ai fait en milieu rural sur la communauté LGBT en zone rurale. Alors bon, c'est un extrait de cette série. En fait, là vous pouvez voir deux mini-séries entre guillemets. Donc il y a Pascal à la ferme, donc Pascal qui est un jeune agriculteur gay d'une trentaine d'années en fait, qui a repris l'exploitation familiale de ses parents en fait. Et Philippe et Yann Pierre, qui sont deux personnes qui sont agriculteurs, mais qui sont aussi instituteurs et professeurs, qui vivent dans le centre-Bretagne. Donc Philippe et Yann Pierre, qui sont mariés depuis 7 ans, parce que ce n'était pas autorisé avant, mais qui vivent ensemble depuis 30 ans, et qui sont aussi très proches de la nature et de la terre, puisqu'ils ont des chevaux, des cochons, des vaches, etc. Ils sont presque en autonomie, en fait. Donc le choix de ce sujet, en fait, sur le milieu rural, et plus spécifiquement aussi sur des personnes soit gays, lesbiennes, intersexes, personnes transgenres aussi, de ce travail, c'était parce que ce sont des personnes qu'on ne voit pas forcément beaucoup en milieu rural, qui ne sont pas très visibles. Et même dans la conscience collective, c'est vrai que c'est une population. Ce n'est pas tout à fait l'image qu'on a. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément non plus évident pour Pascal, par exemple, qui en fait est allé à Paris pendant quelques années avant de revenir en Bretagne parce qu'il ne s'imaginait pas en fait devenir agriculteur à Saint-Laurent. En fait, il n'avait pas de modèle, il n'avait pas de repère. Et donc, c'est aussi une façon de montrer cette visibilité-là. Et je pense que lui, sa démarche aussi, c'était de montrer sa vie au quotidien, montrer aussi son travail parce que... Voilà, je pense qu'il avait aussi envie de montrer sa passion pour les animaux et pour son travail qui était plus forte que tout. Et c'est la raison pour laquelle il est revenu en Bretagne. Et aussi montrer que voilà, on peut être gay, agriculteur, qu'il y a, voilà, c'est aussi lutter contre les stéréotypes et puis bousculer un peu les codes du genre. Et donc c'est un peu ce travail-là que j'essaye de faire sur ce sujet. Et puis il y a aussi le côté, ce qui m'intéresse dans cette série, et spécifiquement dans les photos que j'ai choisies ici, c'est la relation entre l'homme et l'animal, qui fonctionne très bien d'ailleurs avec le travail d'Alexandra, et aussi dans le lieu, puisque c'est une ancienne étable, et notamment c'était la salle où étaient les veaux, en fait. Et c'est un travail que j'avais pas forcément, quand j'ai commencé à faire les images, que j'avais pas forcément anticipé, en fait, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'intéressait, justement, ce rapport entre l'homme et l'animal, et cette sensualité presque qu'on peut retrouver dans les gestes, notamment au moment de la traite. Et puis lui qui est relativement seul dans sa vie aussi, finalement, c'est les vaches, c'est ses compagnons de tous les jours, en fait, et donc il passe beaucoup plus de temps avec ses vaches qu'avec des êtres humains, et donc il développe comme ça une relation très assez touchante. Voilà, j'avais un travail qui est plus intimiste. C'est vrai que même dans mes séries précédentes, c'est vrai que j'ai une façon de photographier qui est assez j'aime bien me rapprocher un petit peu d'être assez proche de mes sujets, de leur intimité, etc. Et cette pièce-là me paraissait plus adaptée aussi.
Bien sûr. Ce que j'aime beaucoup, c'est la matité, justement. La matité des photos et cette lumière très douce, mais qui amène à l'essentiel, la lumière nous guide vers l'essentiel de la photo. Et tout ça, c'est fait, on a l'impression, avec un espèce de naturel incroyable, quoi, en fait. Il n'y a pas d'effet.
Beaucoup de douceur.
Il n'y a pas d'effet, mais... On plonge directement vers le principal dans la photo, et je trouve ça vachement beau.
J'ai juste une question idiote à poser, mais je dis toujours qu'il n'y a pas de question idiote, il n'y a que les réponses qui le sont éventuellement. Non, évidemment, c'est des lumières naturelles, ou vous utilisez...
Ah oui, c'est que des lumières
c'est
naturelles.
C'est que des lumières naturelles, mais c'est ça qui donne ce...
Oui, c'est que des lumières naturelles, et c'est vrai que dans les... En milieu rural, dans les fermes, dans les vieilles maisons, il y a souvent, comme les murs sont très épais, il y a souvent des lumières intéressantes aussi, latérales, qui font penser aussi à la peinture hollandaise, avec cet éclairage un peu... ces puits de lumière. Mmh. Et c'est vrai que moi, du coup, ça me plaît d'avoir cette atmosphère-là et cette lumière rasante, en fait.
Et vous avez retravaillé derrière, non ? Derrière chaque... parce qu'on a l'impression, a priori, que c'est du noir qui a été colorisé.
Non, pas du tout. Il n'y a quasiment pas de... Alors, je désature un tout petit peu les images, je vignette un tout petit peu, mais il n'y a quasiment pas de traitement, non.
C'est impressionnant, comme ça, quand la lumière, par exemple, sur la lampe... Et puis de voir tout le noir à côté, c'est de l'intimité, c'est du profond et c'est du réaliste, quoi. Mais on se dit, mais comment il a réussi à faire ça, quoi.
C'est vrai.
Ah oui.
Mais en fait, c'est peut-être le papier aussi assez mat qui donne cet effet, cette texture. C'est un papier mat
qui absorbe un peu les.
Qui absorbe un peu certaines lumières, ouais, et qui donne un velouté aussi à l'image. Mais c'est vrai que la peinture, c'est une source d'inspiration pour moi. La peinture italienne ou la peinture
hollandaise,
ouais.
Sur ce portrait-là, ça sent beaucoup la peinture.
Je trouve. Sur le gisant, là, oui. Le sommeil.
Ouais.
Je pense qu'il y avait un Velux, en fait. J'aime beaucoup les Velux aussi parce que c'est un peu comme un puits de lumière.
Ouais.
Surtout quand là, en fait, il y avait du lambris assez foncé tout autour. Donc du coup, en fait, on a vraiment... cette sensation de un peu comme l'aperture du Caravage, en fait, où il y a juste quelques détails qui sont éclairés, en fait, hein, et tout le reste est sombre. Et ça, c'est aussi le choix de l'endroit où on a envie de photographier et de la lumière qui compte avant tout.
Je vais vous demander de vous présenter parce que j'ai très très peur de mal dire votre nom.
Alexandra Rushkevich.
Alexandra, j'aurais pu le dire, mais le reste, non. Vous avez bien fait de le faire.
Je suis polonaise, oui.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre œuvre, nous la décrire ?
C'est un travail in situ, j'interviens. C'est la pratique que je mène depuis pas mal de temps. Et donc, in situ, ça veut dire intervenir sur place, en prenant en compte aussi bien le lieu architectural, son histoire, sa plasticité, ses lumières, ses airs, Et donc, voilà, c'est une première rencontre qui date de l'automne dernier pour me saisir déjà de cet aspect-là. Donc, je tout de suite choisi l'ancienne étable, effectivement, parce que nous sommes dans une longère, très longue longère, à l'autre bout de l'atelier de la propriétaire de lieu. Voilà, ce lieu-là m'a parlé. Il est rempli des indices du passé, il révèle encore ses présences de pratique d'une étable, d'un étable. Et tout est présent, le sol est en pente, et j'avais envie de travailler tout de suite par rapport à ce sol-là. Donc, voilà, l'idée, c'était aussi une exploitation dans laquelle il y avait un élevage de bovins, il y avait la naissance des veaux. Et cette présence de veaux dont m'a parlé Elodie, qui, enfant, assistait au mélange, à la préparation du lait en poudre pour les petits, et qui découvrait ces nouvelles sensations, ces sensations similaires en travaillant le plâtre dans sa pratique. Et elle m'a, voilà, on a discuté cuisine un peu dans son atelier, et ça m'a saisi, effectivement, j'avais envie de... Je ne savais pas encore comment, mais de me saisir de cette petite coulée lactée, de la faire apparaître ici, en guise de l'histoire, voilà, un petit rappel. J'ai confectionné une petite pièce en porcelaine, donc miniature de collier pour veaux, vaches, bovins, mais c'est une forme d'objet, ceci n'est pas l'objet, c'est comme la coulée du lait n'est pas une vraie coulée de lait. Ces deux éléments, à même le sol, ils cohabitent. C'est presque une symbiose pour moi.
Une
symbiose, c'est une intervention très très discrète et qui colle à la peau de lieu. Et donc qui fonctionne, à mon sens, avec le travail de Vincent, parce que nous partageons le même lieu. Et Vincent parle aussi de milieu rural, d'exploitation, de solitude, de la vie à deux, de plein d'aspects, dans des belles lumières. Et voilà, je vais lui donner la parole, si vous voulez bien.
Et c'est vrai que c'est très intelligent, l'exposition, d'avoir associé le travail, votre travail avec le vôtre, Vincent, qui est le photographe. Et où il y a des... on est dans la ferme, complètement aussi, dans la même thématique, et la lumière aussi.
On est dans la ferme, effectivement, on est dans l'étable, et puis c'est un travail qui a été fait en amont, en fait, parce qu'on s'est rencontrés avec Alexandra en mars dernier, et donc on a parlé de nos travaux respectifs, du lieu, et oui, ça nous est apparu comme une évidence de présenter ces travaux-là. Enfin, en tout cas, moi, j'avais déjà réalisé ce travail, et en fait, ici, je présente du coup un extrait de cette série qui est... un agriculteur gay qui reprend l'exploitation familiale de ses parents et que j'ai photographié pendant la traite. Et donc il y a des scènes qui sont présentées ici qui font vraiment écho avec l'œuvre d'Alexandra, puisqu'on voit vraiment le geste, on voit le lait qui sort du pied de la vache avec une certaine lumière et aussi une façon de photographier assez intime.
Geste tendre d'une sensualité, d'une intimité aussi. Ce travail, c'est une vocation, donc oui, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'exercer avec la foi. Et Vincent, je trouve, a saisi cette particularité joliment. C'est magnifique, dans la lumière, dans la proximité, dans cette intimité que l'homme peut avoir, l'être vivant peut avoir avec l'animal, parce que c'est ça qui est montré ici.
Oui, et puis c'est aussi pour faire travailler l'imagination justement du spectateur qui rentre dans ce lieu, qui peut imaginer aussi des scènes passées. Voilà, il y a des indices, des images qui peuvent réveiller aussi des souvenirs, parce que c'est aussi quelque chose qui peut parler à peut-être certaines personnes qui vont venir voir l'exposition, qui habitent aux alentours, et qui peuvent ressentir, ou en voyant la texture du lait, de la coulée de lait justement, qui peut évoquer, enfin des fois les sensations comme ça peuvent revenir en regardant les poils de la vache ou de certains gestes qui réactivent en fait des souvenirs, et c'est amplifié par le lieu, je pense aussi.
On est dans un bâtiment agricole, on le sent tout de suite.
Et qui porte ses stigmates à même la peau et qui est vraiment habité par cette histoire-là. Et c'est extrêmement beau dans les teintes, dans ces irrégularités, dans ces imperfections. Et tout est cohérent à cet endroit-là, ouais.
Alors moi, j'ai quand même une question idiote.
Qu'est-ce que ça fait là?
Qu'est-ce qu'il fait là-haut, ce collier accroché à une poutre au-dessus du sol? Il en est quoi? On est à 2 mètres, 3 mètres du sol. Comment un veau a pu laisser s'échapper son collier là?
Je ne sais pas. Un petit clin d'œil, une petite devinette, une petite incompréhension peut-être. Oui, un absurde. Bah, il n'y a pas de réponse, non. Okay. Ça s'arrête comme ça, voilà, c'est d'accord. Un état des lieux. Et pourquoi pas?
Bon, voilà, donc Jean-Paul Taïron, ces sculptures sont là, et on en retrouvera une dans le vallon de Kermabezen.
Donc la présentation de ces pièces ici, c'est une occasion, donc, de, comme cela a déjà été signalé, de faire un lien entre Openfield et Artistes au Jardin.
Jean-Paul Taïron.
Donc je suis saisi de cette opportunité là pour faire une sélection de pièces avec évidemment les contingences qu'implique une présentation de pièces en extérieur. Surtout dans un lieu comme celui-ci, où on est quand même sur un haut plateau, on peut dire, du canton, avec une exposition au vent qui est assez forte. Ça signifie qu'il me fallait déjà retenir des pièces qui aient une relative, une résistance aux intempéries, à la pluie, puis aussi une stabilité pour supporter un peu de vent. Donc, fort de cela, je me suis dirigé vers ces pièces-ci qui sont en acier inox polymiroir. Et ça m'intéressait d'expérimenter l'effet des pièces avec la réflexion du polymiroir dans un espace extérieur où, bien entendu, l'environnement est tout à fait différent. Ici, on peut voir donc se refléter soit les effets des pierres des bâtiments, ou tout à l'heure on remarquait la couleur du rouge de la porte qui venait vraiment marquer sur une ligne forte la pièce verticale, ou parfois aussi la végétation qui se trouve derrière. Et donc selon les lumières du jour, qui sont évidemment très variables en cette saison et en Bretagne, les pièces peuvent acquérir une visibilité parfois marquante avec des reflets du soleil qui viennent vraiment les frapper, ou à d'autres moments dans des ambiances plus grises, plus pluvieuses, la pièce peut pratiquement disparaître et se fondre dans le paysage. Et ça m'intéressait justement d'expérimenter la qualité du temps, de l'atmosphère sur une pièce et la façon que cette atmosphère a de faire vivre diversement la pièce. Ici, la situation m'a amené à retenir ces trois pièces qui ont des tailles un peu diverses, du petit moyen et un petit peu plus grand. Donc jouer sur des formes qui sont aussi en liaison avec l'environnement, le paysage. Il y a dans la verticale l'idée de croissance, d'évolution que l'on peut retrouver plus loin derrière dans les arbres ou dans les plantes qui environnent le paysage ici. L'idée de parfois aussi de l'idée de la verticalité, c'est celle du dynamisme, de la croissance, d'élévation. Donc à la fois nécessité matérielle d'aller chercher l'air en partant du sol. Il y a toujours cette relation entre avoir une assise matérielle, disons les pieds bien ancrés dans le sol, et puis la tête, elle, qui s'élève, qui va chercher de manière peut-être plus spirituelle quelques idées qui permettent de vivre. avec, voilà, si on fait ensuite l'examen détaillé des pièces, que je vous laisserai faire, mais enfin, vous pouvez y retrouver des arabesques, des triangles, des formes courbes que l'on peut associer soit à des éléments qui se réfèrent parfois au mobilier, mais au monde végétal ou animal aussi. Ben là, il y a un registre de formes qui sont puisées dans le monde qui nous entoure et qui ensuite sont regardées, analysées, et puis qui se transforment aussi au fil du temps, de l'inconscient, des rêves, et retraduites ensuite dans le dessin jusqu'au moment où elles peuvent se formaliser en volume, en trois dimensions comme elles le sont ici.